Acte 24, verset 21. Sommes-nous prêts aujourd'hui à subir, si nous aimons le Seigneur, à le servir? Et tant qu'on ne sert pas le Seigneur, on ne subit pas sa haine. Retenez bien ça. Tant qu'on ne subit, on ne suit pas le Seigneur, on ne subit pas sa haine. On suit simplement les conséquences de notre désobéissance, qui sont déjà lourdes. Quand Dieu nous appelle et qu'il a vraiment pris la main de la direction, il brise l'orgueil. Mais ce n'est pas de la haine. Pas de la haine. C'est par amour qu'il nous veut nous toucher et nous transformer. Mais quand on sert le Seigneur qu'on a accepté, on voit tout de suite la haine arriver. Et ça, c'est clair. Et il ne faut jamais en avoir peur. Jamais. C'est la force d'un vrai disciple. Actes des Apôtres, chapitre 24, verset 21. Qu'est-ce que dit notre frère Paul ? C'est bien sûr devant des tas de gens qui l'accusent. Devant le sacrificateur Ananias, vous regardez le verset 1. Et puis avec des anciens, un orateur nommé Tertulle, ils portèrent plainte au gouverneur contre Paul, et puis voilà. Et puis le Félix, au verset 3, Félix, le procurateur romain, le gouverneur, et pratiquement tout va se mettre contre lui. Alors, au verset 21, « C'est à cause de la résurrection des morts que je suis aujourd'hui mis en jugement devant vous. » C'est à cause de la résurrection des morts que je suis aujourd'hui mis en jugement devant vous. N'oubliez jamais ce verset-là. Si vous voulez taper juste, il faut dire que Jésus-Christ est ressuscité. Tapez juste et Satan ne sera pas votre copain. J'ai donné ma vie à Jésus, il est gentil. Oh, c'est mon frère, c'est mon Seigneur. Le diable va encore laisser courir. Parce que vous ne percutez pas exactement comme l'Évangile le dit. Il faut proclamer la mort et la résurrection de Jésus. Pas de baratin autre. Là, c'est l'épée qui dérange Satan. Alors, toute la vie de Paul a été de manifester la foi dans la résurrection de Jésus. Toute la vie, comme les autres apôtres. Prenons Actes, chapitre 1, verset 8. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, la région qui est autour de Jérusalem, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Vous serez mes témoins. Mes témoins. Acte 1, verset 8. Au verset 20, 22. Il est écrit dans le livre des psaumes que sa demeure devienne déserte, que personne ne l'habite, à propos de Judas. Et qu'un autre prenne sa charge, à propos de Judas toujours. Il faut donc que parmi ceux qui nous ont accompagnés tout le temps que le Seigneur Jésus a vécu avec nous, depuis le baptême de Jean jusqu'au jour où il a été enlevé du milieu de nous, il y en ait un qui nous soit associé comme témoin de sa résurrection. Donc, un bonhomme qui était là depuis le baptême fait par Jean-Baptiste, qui a toujours suivi, et dont on ne parlait jamais, et qu'on ne reparlera pas. Ils en présentèrent deux, Joseph, et appelé Barnabas, surnommé Justus, et Matthias. Puis ils firent cette prière, « Seigneur, toi qui connais les cœurs de tous, désigne lequel de ces deux tu as choisi afin qu'il ait part à son ministère, à cet apostolat, que Judas a abandonné pour aller en son lieu. » Voilà. Matthias va devenir un témoin de Jésus-Christ ressuscité. À partir du moment où on apporte l'affirmation dans le monde que Jésus-Christ est ressuscité, ça veut dire que Christ a eu le dernier mot sur le péché, sur la haine de Satan, sur tous les échecs humains. Il a toute l'autorité du salut, il a toute la seigneurie. Et ça, il n'en peut plus avant. Il veut clouer le bec à tout quiconque dit ça. Donc, je vous le dis d'avance, je parle comme ça parce qu'il faudra être courageux dans les mois et les années qui viennent. La pression devient... Ça commence en France, évidemment, mais ça va suivre... C'est en Europe, c'est partout et dans le monde. Chapitre 2. Verset 29. Chapitre 2, verset 29. Homme frère, donc c'est Pierre qui parle. Homme frère, donc juif, qu'il me soit permis de vous dire librement au sujet du patriarche David qu'il est mort et qu'il a été enseveli, et que son sépulcre existe encore aujourd'hui parmi nous. Comme il était prophète et qu'il savait que Dieu lui avait promis avec serment qu'il ferait naître Jésus-Christ de sa postérité selon la chair, donc descendant charnel par Joseph, pour le faire asseoir sur son trône, c'est la résurrection du Christ qu'il a prévue et annoncée. David a annoncé la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Il y a plein de psaumes, comme beaucoup d'autres prophètes, et il l'affirme là devant des responsables juifs qui ne veulent pas l'entendre. C'est la résurrection du Christ qu'il a prévu annoncer en disant qu'il ne serait pas abandonné dans le séjour des morts, que sa chair ne verrait pas la corruption. Psaume 16. C'est ce Jésus que Dieu a ressuscité, nous en sommes tous témoins. Ça, c'est la clé du comportement chrétien dans le monde. Chaque fois que vous illustrez dans autre chose, vous ne tapez toujours à côté, Satan ne perd jamais. Et le pécheur n'est pas libéré de ce chêne. Alors, vous pouvez lire, hein, il faut lire les Actes des Apôtres, il faut voir comment que ça s'est passé. C'est instructif pour nous, tout ça, c'est une école, les Actes des Apôtres. Chapitre 3, verset 8. Vous savez qu'au verset 6, devant le temple, Pierre lui dit « Je n'ai ni or ni argent ». Ben oui, puisque les autres rentraient dans le temple en mettant de l'or et de l'argent, en sacrifiant des tourterelles, des brebis, tout ça, parce qu'ils demandaient pardon pour leur péché à Dieu. Ils n'étaient pas pardonnés. Je prenais patience avec eux. Mais eux, ils n'ont plus besoin de ça. Ni tourterelles, ni brebis, ni or, ni argent. Ils sont sauvés par le sang de Christ. Alors, ils rentrent, je ne dis pas les doigts dans le nez ou les mains dans les poches, mais ils rentrent librement. Ils sont sauvés. Les autres, pas. Et ils vont dans le temple avec eux parce qu'ils les aiment et parce qu'ils sont juifs et parce qu'ils aiment le peuple juif. Alors, je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Prenant par la main droite, il le fit lever. Au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. D'un saut, il fut debout, il se mit à marcher. L'autorité de Christ ressuscité va jusque-là. Je ne suis pas d'accord de dire que Jésus-Christ ne guérit plus personne aujourd'hui. Ce que je suis d'accord avec un certain, les baptistes que je fréquente, c'est que nous n'avons pas le ministère de la guérison comme les apôtres l'avaient. Les apôtres, dès qu'ils priaient pour une guérison, ils l'avaient. Dès qu'ils priaient pour donner le Saint-Esprit, la personne le recevait. Nous n'avons pas cette autorité apostolique. Mais nous pouvons demander à Dieu de guérir quelqu'un, nous pouvons demander à Dieu de donner le pardon des péchés et le Saint-Esprit à quelqu'un, et si Dieu le veut dans sa grâce, il le fera. Mais nous n'avons pas ce ministère, cette autorité apostolique. Mais c'est clair, Jésus-Christ est vivant, il est ressuscité, et nous pouvons l'invoquer. Et moi, je sais que le Seigneur a déjà répondu à des prières, je l'ai vu. Dans ma vie, certains d'entre vous ici l'ont déjà vu. Et il faut oser avancer avec ce Seigneur Jésus Tout-Puissant, qui est libre de répondre à la prière ou pas, qui est souverain dans chacune de nos vies. Il est debout. Alors, bien sûr, Pierre-Jean vont être interrogés, mais durement par les responsables. Ils vont être durement réfléchis. Alors, ils vont, bien sûr, devoir dire, s'expliquer, parce que les autres ne comprennent pas que ce bonhomme qui est handicapé, paralytique depuis sa naissance, est guéri. Alors, de toute façon, ils haïssent Pierre et Jean. Ils ont de la haine. Alors, chapitre 4, verset 8, Pierre, rempli du Saint-Esprit, leur dit, chef du peuple, ancien d'Israël, puisque nous sommes interrogés aujourd'hui sur un bienfait accordé à un homme malade, afin que nous disions comment il a été guéri, sachez-le tous, et que tout le monde d'Israël le sache, c'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth que vous avez crucifié et que Dieu a ressuscité des morts, c'est par lui que cet homme se trouve en pleine santé devant vous. Clac, clac, clac. Point barre. en plein dans les dents, tant pis pour ce qu'ils vont faire. Chers amis, c'est clair, c'est ça le ministère d'un évangéliste ou c'est ça le ministère d'un pasteur. Si c'est pour enseigner des redondances, ça ne sert à rien. Du quitter quatre pour chien et pour chat, ça fait plus vivre les chrétiens. C'est ça, c'est ça. Alors, c'est clair que Pierre va s'appuyer sur, bien sûr, sur des psaumes, etc. Et il va s'appuyer toujours, il va donner des arguments, il va prendre des psaumes, il va donner un sens, il va donner un sens dont il a l'autorité par le Saint-Esprit à certains psaumes qui annonçaient Jésus. Vous lisez chapitre 4, vous verrez. C'est passionnant, les actes des apôtres. Les versets 23 et 25, après avoir été relâchés, ils allèrent vers les leurs et racontèrent tout ce que les principaux prêtres et les anciens leur avaient dit. Lorsqu'ils l'eurent entendu, ils élevèrent à Dieu la voix tous ensemble et dirent « Seigneur, tu es le Dieu qui a fait le ciel, la terre, la mer, tout ce qui s'y trouve. C'est toi qui as dit par le Saint-Esprit, par la bouche de notre Père, ton serviteur David. Pourquoi ce tumulte parmi les peuples ?» C'est le psaume 2. Et ces vaines pensées parmi les peuples. Les rois de la terre se sont soulevés et les princes se sont ligués contre le Seigneur et contre son oint. Ce psaume 2 est une prophétie. Il annonce que tous les pouvoirs politiques, financiers et démoniaques sont contre la résurrection de Christ. Encore aujourd'hui, vous devez identifier les pouvoirs sur la terre comme tels. C'est ici que vous voyez l'explication de la situation internationale. Et le prophète, l'apôtre Paul, ose prendre le psaume et le dit, c'est Dieu qui l'a dit déjà. Les rois de la terre se sont soulevés, les princes se sont ligués contre le Seigneur et contre son oint. N'oubliez jamais cela, que tout ministère authentique pour le Seigneur n'est pas fait pour avoir des congratulations de tout le monde. Mais c'est pour qu'il y ait des âmes sauvées qui aillent au ciel. Les congratulations viennent après. En attendant, vous avez vu la prière tout à l'heure de notre cher Christian, Martin. Là au ciel, les anges se réjouissent aujourd'hui de ce qui s'est passé. Jésus le dit. Là, Dieu le Père se réjouit de déchirer le nom, la page où le nom de Christian a été mis dans ceux qui étaient séparés de lui, condamnés pour l'éternité, et il a inscrit son nom dans le livre de vie. S'il est de tout son cœur attaché à ce qu'il a dit, son nom est inscrit dans le livre de vie. S'il a réellement dit cela, poussé par Dieu, le Saint-Esprit va lui faire prendre des décisions dans sa vie qui vont montrer qu'il n'a plus la même vie qu'avant. J'ai vu ça, même pour un trafiquant d'armes avec Kadhafi. J'ai vu ça. Il a renoncé à tout. Et c'était pas un enfant de cœur, il avait tué à gage. On m'avait demandé d'aller le voir, mais j'ai attendu un an et demi. C'était en priant pendant la nuit, je lisais ma Bible, et cette nuit-là, le Seigneur me dit, tu vas voir André, et tu vas le visiter. Il est sur le point de mourir. Si tu vas le voir, il guérira et il me servira. S'il ne veut pas le voir, il mourra, il sera damné. Donc, j'ai téléphoné à 7h du matin à ce monsieur qui m'en avait parlé, qui s'était converti 2 ans avant. Aussi un sacré phénomène, un financier, hein, qui tripatouillait l'argent dans tous les sens, qui s'est converti, Joseph. Et bien, pratiquement, André, je dis à Joseph, son copain André, il faut que j'aille le voir aujourd'hui. Le Seigneur me demande d'aller le voir. Alors, il est gravement malade, il va mourir, il habite dans le coin de Liège, je téléphone à tous les hôpitaux. 20 minutes après, il me dit, il est à l'hôpital de la Citadelle, en réanimation, il fait son 3e infarctus. Je m'habille, on y va. On est arrivé à 11h moins quart. À 11h15, il était sauvé. Il acceptait Christ. Et il a tout abandonné, hein. Tout abandonner. C'est sur un ordre que j'y étais, hein. Veillez et priez, Jésus l'a dit. Pourquoi? Quand on veille et qu'on prie, qu'on n'est pas séduit par le plumard, on n'est pas séduit par la boustifance, on a une vigilance en soi qui est première. La vigilance, tout d'un coup, on se demande si c'est le Seigneur qui le demande. On prie, on lit la Bible, et puis 2 heures après, 2 minutes après, 2 secondes après, on sait que ça vient de Dieu, pas de soi. 2 mois après, ça dépend dans les cas. Alors il faut y aller. Où que ce soit. Hein. Et ça, c'est l'autorité du Saint-Esprit. Les nations hostiles, c'est la réalité depuis le péché d'Adam et Ève. Les nations hostiles. Et elles sont annoncées dans le psaume 2, et Pierre les enseigne. L'enseigne. Il l'affirme. L'hostilité est organisée par le monde contre la résurrection de Jésus-Christ. Elle n'est pas accidentelle ou fortuite. Actes chapitre 8, verset 56. Il ne faut pas être trop inconscient et trop dupe. On est dans un combat spirituel énorme. Eh bien, je vois que 56, je ne vois pas. 8, 56, je ne vois personne. C'est pas ça. Qu'est-ce que fait Cédan 8 hein, c'est, vous voyez l'eunuque au verset 26. Un ange du Seigneur s'adressant à Philippe lui dit « Lève-toi et va du côté du midi sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, celui qui est désert. » Ordre du Seigneur. Et Philippe, boum, il ne discute pas. Vous savez, quand vous avez donné votre vie à Jésus, vous savez à un moment donné... Il y a des choses, c'est des broutilles dans la vie. Et on s'occupe d'un tas de trucs, bon, des choses domestiques. Mais il y a des choses qu'il ne faut pas discuter. Il faut savoir que c'est le maître qui me le demande. Le maître me le demande, comme un os de canard. Allez, remplissez les cruches là-bas, remplissez les d'eau, et donnez-le. 480 litres d'eau pour, qui change en vin. Pour annoncer quoi ? Ésaïe, chapitre 25, 6 à 9. La résurrection, la disparition de la mort. Ésaïe, c'est toujours la résurrection la clé. C'est toujours la vie et l'anéantissement de la mort. C'est ça qu'Osée a dit, chapitre 13. Ô mort, où est ta victoire? Où est ton aiguillon? C'est ça que Paul reprend dans 1 Corinthiens 15. La résurrection est l'étendard de Jésus-Christ. La victoire sur la mort, sur l'œuvre de Satan, sur l'œuvre du péché. Donc quand ce brave Danny, qui travaillait là dans le bureau, que j'aimais beaucoup, j'estimais beaucoup, et on ne se mêlait pas de religion ou d'ésotérisme, il faisait ce qu'il voulait, tout marchait bien. Et puis un jour, il vient là, il débarque, c'est lui qui commence à faire la guerre spirituelle. Et j'ai dit non. Hein? Mylène était là, et vous savez... Et on s'est rendu compte à quel point c'était lourd d'être chrétien. C'est pas si simple que ça. Et pourtant, on n'était pas des chrétiens terriblement engagés. Mais on avait au fond du cœur cette adhésion à la mort et à la résurrection de Jésus. Ça suffisait pour déplaire à Satan. Et pour animer quelqu'un contre nous. Pourquoi Satan anime-t-il de nombreux hommes contre la résurrection de Jésus? Pourquoi Satan a-t-il une telle haine? Vous avez compris, j'espère, avec ce que j'ai dit. Elle n'est pas sous-estimable, cette haine. Elle est la réalité, face aux chrétiens. Donc la prière, parfois le jeûne, la parole de Dieu. Il faut prendre Éphésiens 6 au pied de la lettre. 6, verset 10 et suivant. Maintenant, je me suis toujours posé la question, pourquoi dans les Actes des Apôtres, il y a 3 fois le récit du chemin de Damas. 3 fois. Comme si les gens étaient sourds. Luc, le médecin grec qui se convertit, il retape dans son récit 3 fois l'événement où Paul a connu Christ. Ben on va voir, hein. On va commencer par acte 9. Acte 9, verset 1. Saul, respirant encore la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur, se rendit chez le souverain prêtre, lui demanda de l'aide pour la synagogue de Damas, donc en Syrie, pour que s'il trouvait des partisans de la nouvelle doctrine, la mort et la résurrection de Jésus, homme ou femme, il les emmena liés à Jérusalem. Comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup, une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre et entendit une voix qui lui disait « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Il répondit « Qui es-tu, Seigneur ?» Donc, quand les nations, quand quelqu'un est contre la résurrection de Jésus-Christ, il persécute Jésus-Christ. Vous avez l'identification. Là, vous avez l'identification de toute haine contre l'Évangile. C'est une haine pour persécuter Jésus-Christ. Pour ajouter encore aux souffrances de sa croix, Jésus-Christ est venu dans un monde où il est ressuscité, évidemment. Il est encore haï. Il est encore persécuté. Mais à travers qui ? Mais ceux qui vont, dans leur bouche, dans leur vie, en témoigner. Qui es-tu, Seigneur ? Le Seigneur dit, je suis Jésus que tu persécutes. Il serait dur de régimber contre les aiguillons. Donc c'est le dard du taureau, hein, c'est la verge, séchée, qui servait à frapper pour tuer. Le fouet qui tuait, c'était la verge de taureau séchée. Autrement, c'est des fouets avec des lanières de cuir et parfois des clous. Tremblant et saisi d'effroi, il dit « Seigneur, que veux-tu que je fasse ?» Le Seigneur lui dit « Lève-toi, entre dans la ville, on te dira ce que tu dois faire. » Donc il va rester aveugle, il ne mange plus, il est cloué. Ananias, qui a peur de ce gaillard-là, il va quand même, parce que Dieu lui demande. Et il a peur. Mais le Seigneur lui dit, au verset 15, « Va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois, devant les fils d'Israël. Je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. » Vous voyez ici que Paul va en collision frontale avec la prophétie du psaume 2. Les rois se sont ligués contre le oint et il envoie un homme en collision frontale contre les autorités du monde, les autorités diaboliques du monde. Vous voyez que, qu'est-ce qu'il fait ? Il va faire ça avec chaque apôtre, il les envoie en collision contre les autorités démoniaques du monde, et qui sont incarnées, qui sont dans des hommes, des procureurs, des proconsuls, des romains, et aujourd'hui donc. Et aujourd'hui donc. C'est pas mieux. Alors, il envoie en collision. Et Paul va accepter d'aller en collision. Quand je vois notre cher pasteur Saïd là, là-bas au Pakistan, quand je vois Saba Youssef, la jeune femme là, à qui je correspond, ben dis donc, jusque tant que Jésus met des anges autour d'eux, ça va, mais le jour qu'ils vont se faire, c'est comme ça là, Satan est là, hein, dans ce pays. Dieu les protège et ils apportent la parole de Dieu. Ça c'est chapitre 9. Si vous prenez chapitre 22, vous avez la répétition de ce récit, idem. C'est quand même incroyable que ce grec, Luc, mette trois fois le texte. Pourquoi ? Parce que c'est montrer que Dieu choisit des hommes et des femmes pour porter le message de la résurrection de Christ. C'est primordial dans l'œuvre du salut. Aujourd'hui, Dieu veut encore que des hommes et des femmes à y porter le témoignage de la mort et la résurrection de Jésus aux hommes. C'est permanent. C'est une mission permanente jusqu'au temps que Jésus revient. Donc au chapitre 22, verset 6, hein, j'étais à Damas, je prenais de Damas, etc. C'est tout à fait le même récit. Là-bas. Et avec l'intervention de Ananias, qui bien sûr avait peur, mais qui y va quand même, parce qu'il fait confiance dans son Seigneur. Et évidemment, il y avait un ordre pour cet homme, Paul. Verset 14. Chapitre 22, verset 14. « Le Dieu de nos pères t'a destiné à connaître sa volonté, à voir le juste, à entendre les paroles de sa bouche, car tu lui serviras de témoin auprès de tous les hommes des choses que tu as vues et entendues. Et maintenant, que tardes-tu ? Que tardes-tu ? Lève-toi, sois baptisé, lave tes péchés en invoquant le nom du Seigneur. » N'oubliez pas ces paroles-là. Pourquoi tardes-tu? Ça, c'est le propre de quasiment toutes nos églises. Pourquoi tardes-tu? Lève-toi. Ce sont des ordres impératifs. Lève-toi. Le combat. Pour moi. Maintenant, on va au chapitre 26, verset 12. Chapitre 26, verset 12. À partir du verset 12, il raconte toujours le même flash, hein, le Seigneur qui le fait montrer sa gloire, il devient aveugle. Hein. Mais alors, au verset 14, il y a une différence avec les deux autres récits. Nous tombâmes tous par terre, j'entendis une voix qui me disait en langue hébraïque, « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu ?» C'est en langue hébraïque. Pourquoi ? Jésus, du temps de vivant, est sur la croix, il parlait en araméen. Maintenant, dans la troisième manifestation, ici, il parle en hébreu. La langue d'Abraham, la langue de la Bible, de l'Ancien Testament. Là, il ne peut plus, hein. Toute la langue des prophètes, c'est en hébreu. Il ne peut plus douter. Le même Jésus de Nazareth qui est né, qui parlait araméen, qui est mort sur la croix en parlant araméen, le là qui parle hébreu. La langue de la révélation biblique. Quelle langue croyez-vous que Jésus parlera quand il va revenir et établir son royaume? Il n'y a aucune illusion à se faire. C'est l'hébreu. Et c'est chose bizarre. Hein, clic, clic, on va tous le comprendre. Ah oui. Parce qu'autrement, il faut des cours pendant 3 ans, et ainsi de suite.
Et encore.
Et encore, oui. On pédale. Hein. Donc, ce que je veux vous dire, c'est que Dieu a pris une telle autorité sur Paul qu'il est complètement attaché. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qui est dit? Verset 15, qui es-tu Seigneur? Le Seigneur dit, je suis Jésus que tu persécutes. Lève-toi, tiens-toi sur tes pieds, car je te suis apparu pour t'établir ministre, donc serviteur, témoin, marturia, hein, des choses que tu as vues et celles pour lesquelles je t'apparaîtrai. Donc il aura encore d'autres apparitions. Je t'ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens, vers qui je t'envoie. Donc il était citoyen de Tarse. Et Tarse, à un moment donné, avait soutenu, il y avait deux Césars qui faisaient la guerre, qui avaient divisé le royaume, l'Empire romain. Et Tarse avait soutenu un des Césars, un des empereurs, et c'est celui-là qui a gagné. Et à cause de ça, l'empereur a décrété que tous les habitants de Tarse seraient des citoyens romains. Gratis, hein? Sans devoir payer quelque chose. Alors qu'autrement, il fallait payer, hein? Il fallait faire... payer cher pour être libre. Alors, il est à la fois du peuple juif et il est à la fois du peuple romain. Il n'y a que Dieu qui peut faire des coups pareils. Vers qui je t'envoie, afin que tu leur ouvres les yeux, pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. Donc la vie divine, le Saint-Esprit et un jour le paradis. C'est ce que Christian, aujourd'hui, il s'est engagé dans cette voie-là. C'est Dieu qui l'y a poussé. C'est Dieu qui l'y a poussé. C'est clair qu'il y a 2 ans, Alexander et moi, on était chez lui. On parlait. Et Christian était dans une confusion incroyable. Oui, et je vois bien, il le reconnaît. Mais Alexander dit, mais c'est pas possible. Laisse faire le Seigneur, j'ai dit à Alexander. Il a 32, 33 ans. Tu es encore jeune dans le ministère. Ne t'impatiente pas. Prie pour lui. Laisse faire le Seigneur. Nous, on n'est capable de rien. Cher ami. Hein? Et c'est comme ça pour d'autres. Hein? C'est comme ça pour d'autres. Tu sais,
On s'y attend pas.
Mais le serviteur, c'est un serviteur. C'est pas le maître. Hein? Donc, parce qu'il a eu un passé dans une église pentecôtiste. Alors, on prêche. Poum! Ils sont tous chrétiens, quoi. On croit qu'on va sortir des lapins du chapeau, mais on n'en fait sortir aucun. du chapeau. On n'est pas des magiciens. C'est la grâce de Dieu qui vient d'en haut qui fait d'un pécheur un enfant de Dieu. Voilà. Et ça, ici, le pardon des péchés, l'héritage de Dieu sanctifié. En conséquence, roi Agrippa, je n'ai point résisté à vision céleste. À ceux de Damas, d'abord, puis à Jérusalem, dans toute la Judée, chez les païens, j'ai prêché la repentance et la conversion à Dieu avec la pratique d'œuvres dignes de la repentance. Alors, nous y voilà, cher Christian, des œuvres dignes de la repentance. Donc, il faut apprendre qu'est-ce que c'est d'obéir à Dieu, de faire sa volonté. Ça, c'est le long chemin, nous aussi. Voilà, et c'est clair, les amis, que la résurrection de Christ embête le monde des ténèbres. Elle l'embête. C'est plus que ça, c'est une provocation. Pourquoi ? J'ai en effet fini. Soyez certains que chaque fois que vous parlerez que Jésus-Christ est mort et ressuscité à quelqu'un, soyez certains qu'il faut prier beaucoup. Il faut se remettre dans le calme et la prière. D'abord pour que les flèches passent à côté de vous, ne pas les ramasser en plein et commettre des péchés après. Parce que c'est ça, hein, on commet des péchés des fois parce qu'on a foncé comme un bœuf là et on croyait que c'était comme ça, là je n'ai qu'à parler et puis ça va faire effet. Non, Satan est très méchant. Il faut prier, il faut être dans la méditation de la parole de Dieu, dans la prière, l'adoration, pour que quand on ouvre sa bouche auprès de quelqu'un, les flèches elles passent au-dessus, en dessous, on s'en fout, elles passent à côté, elles ricochent. Mais ce qu'il y a, la personne qui a entendu aussi, parce qu'on a prié, tôt ou tard, la grâce est agissante. La grâce est semée, elle va agir. Ésaïe 55. Ésaïe 55. Voilà. Cher Christian, bienvenue au club du ciel. Le club du ciel éternel.